Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Ça, ce sont des chaînes et des carcans qu'on veut vous imposer. T'es trop arabe, t'es trop noir, t'es trop femme, t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es trop quelque chose pour te décourager dans ton projet. Et toi, ce qu'il faut répondre, il faut répondre par la détermination.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Sami.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Très bien, très bien. Ouais, on se parlait juste avant, tu me disais que là, c'est un peu la crise là en France, il fait chaud.
Oui, il fait très chaud. C'est des températures auxquelles que l'on connaît déjà dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'ici, c'est assez exceptionnel.
Tu es basé à Paris, hein, c'est ça?
Oui, tu es à Paris, oui, tout à fait.
Alors, Sami, il y aura beaucoup de choses sur lesquelles on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, j'espère en tout cas. Je pense que tu as beaucoup d'expérience, de retour d'expérience à partager. Et je vais essayer de faire de mon mieux, Inch'Allah, pour essayer d'extraire un peu toutes ces expériences de toi, de poser les bonnes questions, Inch'Allah. Je vais essayer, en tout cas, je demande à Dieu qu'il me facilite et qu'il nous facilite. Sami, pour commencer, je te propose de nous dire rapidement qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais actuellement.
Bien, moi, qui je suis? Moi, je suis un natif de Paris. Je suis né dans une famille d'immigrés algériens qui sont arrivés dans les années 60 en France et à Paris directement. J'ai eu une scolarité classique, hein, et j'ai fait des études après le bac. J'ai fait un master en sciences politiques et un master en histoire médiévale, avec une spécialité en histoire médiévale. À la suite de quoi, j'ai enseigné, et ça fait 20 ans que j'enseigne aujourd'hui.
L'histoire-géographie?
L'histoire-géographie, tout à fait, dans le secondaire, c'est-à-dire j'ai enseigné comme prof du collège et j'ai enseigné aussi comme prof au lycée dans des territoires très divers, aussi bien des territoires à composition sociale CSP+, que dans des territoires de classe populaire.
D'accord.
Par ailleurs aussi, j'ai une activité associative et engagée qui commence à devenir assez riche, en tout cas qui commence à être longue, mais toujours aussi passionnante, puisque déjà depuis mon jeune âge, on va dire depuis l'âge de 17-18 ans, je me suis engagé dans le travail associatif local et social,
ouais,
pour ensuite tenter des expériences beaucoup plus importantes, qui sont des expériences au niveau national, international et des engagements qui sont aussi politiques par ailleurs, peut-être dont on parlera après.
Inch'Allah. Ok, très bien. Donc tu disais que tu étais, tu as commencé à être engagé très très tôt. C'était quoi que tu faisais au début localement?
Ben, localement, j'ai fait ce que beaucoup de gens on fait, des gens de ma génération en tout cas, mais pas seulement. C'est que je me suis engagé localement dans des associations d'aide et de soutien aux devoirs pour mes camarades du quartier, mais également des activités sociales comme des banques alimentaires ou des activités de loisirs et de sorties, comme des sorties dans des parcs à thème, ou bien des sorties, des séjours de vacances, des choses comme ça. On organisait cela. Et puis, voilà, je pense que c'est important de ne jamais oublier comment on a commencé notre action d'engagement et notre action associative. Parce que c'est elle, cette action de terrain, cette action de proximité du quartier, qui donne une image la plus fidèle de ce que vivent les gens qui vivent dans les quartiers populaires.
Ouais. Et tu sais d'où ça devenait tout ça, cet engagement, cette volonté de s'engager? Est-ce que dans ta famille, les gens s'engageaient aussi? D'où ça t'est venu?
Oui, on est plutôt une famille qui est engagée. Moi, j'ai des membres de ma famille qui sont des gens qui ont été engagés syndicalement. J'ai des personnes, j'ai mon grand-père qui a été combattant pour la libération en Algérie. On est une famille où, comme presque toutes les familles maghrébines, on parle beaucoup de politique, hein, politique locale, politique nationale. On engage beaucoup de débats sur ces questions-là. Voilà, donc je pense qu'il y a une racine déjà familiale, mais pas seulement. Et j'ai aussi peut-être aussi, c'est peut-être aussi lié à la curiosité et à l'intérêt à la chose publique qui est apparu chez moi très tôt. Et je suis aussi quelqu'un qui n'a pas spécialement voulu être délégué de classe quand j'étais petit, mais qui s'intéressait de près à la manière dont on étudiait déjà en primaire. Moi, j'ai peut-être à titre anecdotique, je me souviens de ma première mobilisation. J'avais 9 ans, j'étais en classe de CE2 où j'ai demandé à mes camarades de cesser de faire cours parce que la décision qui avait été présentée par ma professeure de CE2 me semblait inique, injuste, on va dire. Donc voilà, c'est peut-être des éléments comme ça de la vie qui montrent que l'intérêt pour la chose publique, l'intérêt pour la cause des plus faibles, la cause contre les injustices est apparue très tôt chez moi.
Ok, d'accord. En termes d'études, donc toi tu t'es orienté plutôt dans les études d'histoire.
Les sciences humaines, en fait.
Sciences humaines, d'accord.
En fait, je me suis toujours intéressé aux sciences humaines, la sociologie politique, le droit, toutes ces questions-là sont des choses qui m'ont beaucoup intéressé, les relations interpersonnelles, toutes ces questions sociales, on va dire, la psychologie sociale aussi, ce sont des choses qui m'ont beaucoup intéressé. C'est vrai que j'étais un peu, on va dire, un profil plutôt à part, parce que pour ma génération, on avait surtout des profils qui se dirigeaient vers des formations beaucoup plus scientifiques, mathématiques. Moi, je suis quelqu'un qui a eu le bac au début des années 90, et à l'époque, c'était vraiment l'informatique qui avait le vent en poupe. Et moi, la plupart de mes collègues se sont dirigés vers l'informatique. Moi, j'ai préféré, on va dire, une orientation vers les sciences humaines.
D'accord. Tu suivais en fait les intérêts que tu avais de manière générale. Tu n'es pas laissé orienter par ce qui était à la mode, quoi.
Ah, complètement, complètement. J'ai trouvé beaucoup de plaisir à étudier à l'université ces matières. J'ai trouvé beaucoup de plaisir à les approfondir. Et c'est ce qui fait que j'ai quand même passé pas mal d'années à l'université aussi.
Ok. Donc tu as fini par faire des études dans l'enseignement, donc tu as passé le CAPES, j'imagine, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait des études universitaires. En fait, les études en sociologie politique, ils m'ont amené à m'interroger sur le contexte dans lequel toutes les idées politiques que l'on connaît aujourd'hui, le libéralisme, le communisme, le socialisme, se sont développées. Et j'ai voulu comprendre dans quel contexte tous ces penseurs ont développé toutes ces idées et que tous ces mouvements politiques se sont créés et développés. Et donc, j'ai voulu chercher ça en faisant de l'histoire. Et puis, de fil en aiguille, c'est l'histoire médiévale qui m'a le plus passionné, bien que l'ensemble des périodes sont intéressantes et m'ont intéressé, mais c'est la période médiévale qui m'a le plus intéressé, pour laquelle j'ai produit un mémoire de fin de maîtrise. À l'époque, on disait maîtrise. Et voilà, c'est comme ça qu'ensuite, alors moi j'ai pu faire de longues études. À l'époque, j'ai eu cette opportunité parce que j'étais aussi ce que l'on appelait un surveillant d'externat à l'éducation nationale. Et le statut de surveillant d'externat, il nous permettait à la fois de pouvoir travailler et d'avoir des revenus, tout en pouvant continuer à étudier à l'université. C'était vraiment une opportunité qui m'a aidé. Maintenant, j'ai constaté que ce statut de surveillant d'externat n'existe plus, malheureusement, comme beaucoup de choses. Et je pense que s'il existait encore aujourd'hui, il aurait permis à beaucoup de jeunes gens, de la même manière qu'il me l'a permis, de pouvoir faire des études beaucoup plus longues et peut-être de saisir des opportunités qui ne le sont pas aujourd'hui en raison des difficultés matérielles auxquelles sont confrontés les étudiants. Et c'est comme ça qu'en étant surveillant d'externat, j'ai pu être au contact de professeurs et qu'un des chefs d'établissement que j'apprécie particulièrement m'a encouragé à tenter une expérience en tant qu'enseignant. Et je l'ai tenté sans grande conviction, honnêtement. Et pourtant, j'y suis resté. J'ai apprécié d'enseigner la matière. J'ai apprécié le contact avec les élèves. J'ai apprécié d'être justement, encore une fois, au contact de cette réalité sociale, cette diversité sociale, les difficultés qui sont liées et l'intérêt aussi de pouvoir transmettre un savoir qui me passionnait. Et voilà, et je l'ai fait. Et ce qui devait être une expérience, en fait, c'est une expérience qui a duré 20 ans.
Tu m'as dit tout à l'heure que tu t'es mis en année sabbatique, entre guillemets. Je ne sais plus comment vous appelez ça, une année de césure. Donc, tu n'enseignes plus actuellement. Mais est-ce que tu trouves l'enseignement toujours aussi passionnant que tu le trouvais au départ ?
Alors, l'enseignement en tant que tel, oui, il est passionnant. L'enseignement en tant que tel, il est passionnant parce que il permet, comme je te le disais tout à l'heure, de transmettre un savoir. Et le fait de transmettre ce savoir et de voir les élèves l'acquérir, et ensuite, pour certains, même avoir se trouver une future vocation, celle d'être également professeur d'histoire, ou comprendre le sens aussi plus globalement de ce que sont les études, de ce qu'est l'intérêt d'apprendre, ce qui n'est pas évident dans certains contextes. Le fait de voir les élèves progresser, le fait de voir aussi plus tard, quelques années après, voir ces élèves, comment ils ont réussi, trouvé leur chemin, trouvé leur orientation, travailler, s'installer, créer une famille, une voie professionnelle, ça, ce sont des choses qui sont les plus grandes récompenses. Ça, en ce sens, oui, tout ça, on ne l'a pas perdu. Par contre, il devient de plus en plus difficile d'enseigner. Le manque de moyens, les sureffectifs, tout ce dont on entend parler, tout ce dont se plaignent les professeurs est réel. Contrairement à ce qu'on pense, le métier d'enseignant n'est pas un métier facile. Il exige beaucoup d'investissement, mais ça, c'est une vocation et les professeurs s'investissent. Mais on exige de plus en plus de s'impliquer dans des actions qui ne sont pas strictement en lien avec l'enseignement et qui sont plutôt des tâches administratives. Aujourd'hui, l'enseignant, il est à la fois pédagogue, mais il est quelque part aussi assistante sociale, il est conseiller d'orientation, il a beaucoup de tâches annexes qui grignotent sur le temps qu'il devrait passer dans la pédagogie et sur les supports d'enseignement, sur la manière d'améliorer encore davantage la transmission du savoir, dans la mesure où il doit s'adapter aux différents profils que l'on a et surtout qu'il s'adapte aux différentes difficultés que l'on rencontre avec les nouveaux profils d'élèves. Et tout ça, c'est du temps que l'on n'a pas. Et du temps que l'on n'a pas et que l'on a de moins en moins dans un contexte où on réduit les dotations horaires, c'est-à-dire le nombre d'heures que l'on passe devant les élèves. Tout ça, c'est au détriment de la réussite des élèves, malheureusement. Ça devient de plus en plus compliqué. Et je pense que j'ai demandé aussi une mise en disponibilité aussi pour ces raisons, parce qu'il était temps que je fasse un point sur moi-même et de savoir comment je peux peut-être aussi réfléchir à la manière dont je peux participer à toutes ces questions-là dont je viens de parler pour essayer de les améliorer, notamment sur le plan de l'engagement politique.
Très bien. Donc, si on parle justement de ton engagement, de tes différents engagements, tu t'es engagé dans l'associatif à plusieurs reprises, donc depuis ton plus jeune âge. Hein. Je pense que l'association qui est la plus connue dans laquelle tu as participé et que tu as fondée, il me semble, ou co-fondée, je ne sais pas si vous étiez plusieurs au début, c'est donc le CCIF. Donc, je pense qu'on va s'attarder un petit peu plus sur celle-là, qui est, je pense, ton expérience qui était la plus longue dans l'associatif, j'imagine. Comment est-ce que tu en es arrivé à créer cette association? Tu participais déjà à d'autres associations juste avant. Comment ça fait la transition et pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette expérience?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, j'expliquais un peu mes traits de caractère qui m'ont poussé à m'engager dans la cause, dans des causes liées aux injustices, ou en tout cas aux droits de l'homme et à l'égalité entre les personnes, et ainsi de suite. Et ces traits de caractère, on va dire, ils rencontraient à peu près les mêmes profils et donc d'autres personnes dans le cadre des activités associatives. Et un peu aussi le contexte dans lequel tout ça s'est développé, c'est-à-dire dans les années 90 et début des années 2000, c'est un contexte assez particulier parce que, à titre de rappel, ce sont les années 90. Pour être plus précis, à partir de 89, il y a eu une série de polémiques autour du voile dans les établissements publics du second degré, notamment avec l'affaire de Creil en 89, mais également en 93. Il y a eu également des polémiques du même type et qui ont poussé à, qui ont vu naître la circulaire dite Bayrou, du nom du ministre de l'Éducation de l'époque. Et puis également, il y a eu comme ça un certain nombre de polémiques, comme la France en a le secret, autour des questions du voile, notamment principalement dans les écoles. Ouais. Et déjà, moi, j'étais engagé pour aider ces jeunes filles à titre personnel avec d'autres amis. Et si tu veux, c'est à partir des années 2000 au détour d'une polémique journalistique avec un journaliste qui est fondateur d'un hebdomadaire très connu qui s'appelle Le Point, il avait tenu des propos proprement scandaleux puisqu'il avait dit qu'il était islamophobe, qu'il revendiquait cette islamophobie, il s'appelle Claude Imbert, hein, sur la chaîne LCI, la chaîne d'information continue de TF1, et que voilà, et que son islamophobie, elle ne s'exprimait pas contre l'islamisme, mais bien contre l'islam et les pratiques musulmanes. Et donc, c'est à la suite de ça que, pour le faire rapidement, parce qu'on l'a déjà expliqué maintes fois, qu'avec une trentaine de personnes, on a décidé d'agir, déjà en manifestant notre réprobation devant le siège social de cet hebdomadaire, mais ensuite, en y donnant une suite, en structurant un mouvement de contestation qui a vu naître donc le fameux collectif contre l'islamophobie en France. Au tout début, l'ambition de ce collectif, c'était simplement de recenser les cas d'islamophobie, les cas liés, les incidents liés encore en 2003, puisqu'on a en 2003 un contexte qui est celui de la mise en place de la commission Stasi par Jacques Chirac, qui voulait auditionner tous les acteurs de l'école, des écoles, pour savoir s'ils devaient faire une loi avant ou pas. Et donc, dans ce contexte, il y avait des polémiques à n'en plus finir sur le voile à l'école, le voile au travail, le voile je ne sais où, dans tous les espaces sociaux. Et puis on en est arrivé à ce qui devait arriver, c'est qu'à force de polémiquer sur des faux problèmes, eh ben on en rencontre de vrais, et les vrais problèmes, c'était des cas de discrimination et des cas d'agression physique vis-à-vis de femmes et d'hommes de confession musulmane. Et c'est donc là où s'est présentée la nécessité absolue d'agir à travers cette organisation, en nous entourant de juristes bénévoles et d'avocats bénévoles pour apporter aide et assistance à ces gens-là. Et puis, petit à petit, on a structuré cette organisation qui est devenue ce que l'on sait aujourd'hui.
Le CIF, c'est une expérience de 17 ans, il me semble. Ça a duré au total 2003 à 2020. Donc, c'est 17 ans environ, oui. Quelles ont été les plus grandes choses que vous avez faites pendant ces 17 ans? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience?
Moi, je retiens de cette expérience, et je pense que c'est au-delà des grands coups, comme on dit. Je pense que le plus important, c'est notre assistance, l'assistance qu'on a apportée au quotidien aux gens qui avaient besoin d'être orientés, d'être soutenus, d'être conseillés. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment le travail au jour le jour. Parce que la vulnérabilité des profils a bien montré que s'il n'y avait pas eu le CCIF, ces gens-là n'auront pas su vers qui se tourner. Par exemple, il faut savoir qu'on a créé une structure qui était proprement et spécialement orientée vers l'islamophobie, non pas parce qu'on considère que seule l'islamophobie méritait d'être traitée, mais simplement parce que les autres organisations qui existaient avant le CCIF, elles ne prenaient en charge les questions de discrimination liées à la religion musulmane qu'en partie pour les meilleurs ou pas du tout pour la plupart. Et donc, ces gens-là, nous, il fallait qu'on… Déjà par le nom, par l'intitulé de cette organisation et par son objet, qu'on indique clairement la couleur aux victimes qui comprennent qu'en écoutant ce nom, qu'en voyant l'objet de cette association, ils sachent qu'ils y trouveraient de l'aide. Et de ce point de vue, l'objectif a été atteint et c'était le plus important. Et on a apporté cette aide à des milliers de personnes qui ne connaissaient pas leurs droits, qui ne savaient pas comment se défendre et surtout à qui on a pu permettre de continuer leurs activités professionnelles, de trouver un travail, de sauver leur job. Parce que derrière, quand on dit sauver leur job, ce n'est pas n'importe quoi. C'est continuer à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, de créer de la stabilité dans sa famille, de ne pas créer de tensions sans que ça débouche sur des tensions telles que ça pouvait faire exploser une famille avec des divorces, des séparations, des choses de cette nature. Voilà, c'est pas que ça. C'est vraiment ça. Ça a des conséquences profondes dans la vie des gens, de leur permettre de pouvoir sauvegarder leurs droits, connaître leurs droits. C'est vraiment très important. Et puis on a eu aussi des coups d'éclat médiatiques, on va dire. Puisqu'on a mené des campagnes qui ont été des réussites pour les mamans accompagnatrices. On a obtenu du Conseil d'État qu'il condamne des maires de villes, de communes, qui ont souhaité interdire le port du burkini. On a aussi mobilisé des gens sur plusieurs questions liées à l'islamophobie. On a sensibilisé des personnalités politiques, des personnalités médiatiques sur toutes ces questions. Et surtout, les gens ont su que l'islamophobie, c'était une réalité qu'il fallait la combattre. Et aujourd'hui, l'islamophobie, tout le monde sait ce que c'est, même ceux qui la nient. Et c'est une réalité aujourd'hui qui est défendue, connue, traitée dans les instances internationales, qui est traitée sur le plan académique, qui est traité dans beaucoup de pays par des hommes politiques et qui est aussi qui est une notion du racisme qui est connue et qui a le même statut aujourd'hui en termes d'études et de connaissances que les autres formes de racisme. Et ça, c'est fondamental, et je pense que le CCIE, de ce point de vue-là, il a joué un rôle vraiment précurseur et fondamental, non seulement en France, mais également en Europe et à l'international, puisque beaucoup d'organisations en Europe et à l'international qui traitent aujourd'hui ces questions se sont inspirées de nous ou bien ont même été soutenues par nous et encouragées par nous pour mener toutes ces actions. Voilà. Évidemment, pour autant, ça ne veut pas dire que L'islamophobie est en perte de vitesse. Bien au contraire, on voit que dans un contexte où les nationalismes et le racisme a le vent en poupe et aujourd'hui il se normalise puisqu'il touche tous les strates de la société, eh bien, l'islamophobie encore sévit beaucoup en France et en Europe. Et donc, il faut continuer le combat qui est à mener. Et le travail du CCIF, c'est un travail tellement, tellement efficace, un travail qui a beaucoup apporté, que les ennemis de la lutte contre l'islamophobie, donc les islamophobes et particulièrement les partis d'extrême droite, ont fait pression et ont trouvé des relais au sein, malheureusement, de l'administration et de l'État, qui, au lieu d'être nos alliés dans cette lutte contre l'islamophobie, comme ils l'ont été dans la lutte contre le sexisme ou les autres formes de racisme ou de discrimination, eh bien, ont préféré prendre le camp des extrémistes et des islamophobes contre nous en tentant de nous dissoudre. Mais comme vous le savez, le CCIF, à l'époque, en 2020, a pris les devants et s'est autodissous pour pouvoir préserver les intérêts de ses adhérents, les intérêts de son activité, surtout les intérêts des victimes. Et ça montre, en plus de cela, vraiment la capacité du CCIF, sa capacité de résilience et à savoir rebondir face aux défis qui lui sont présentés. Et ça, franchement, c'est encore une qualité qu'on lui a trouvée. Moi, je n'étais plus au CCIF, donc c'est tout le mérite qu'ont les responsables de cette structure qui sont venus après et qui ont su justement donner un nouveau souffle à ce combat qui continue et qui de toute façon ne devra cesser que lorsque l'islamophobie sera en tout cas réduite ou bien disparaîtra.
Oui. Avec toute ton expérience là, sur les 20-30 dernières années, c'est quoi toi, ton analyse avec tout ce que tu as pu voir sur la montée de l'islamophobie justement en France? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, à quel point ça a monté et quelles sont les raisons que tu vois, toi, de par ton œil, enfin, tout ce que tu as pu voir?
Moi, je suis certain de deux choses, au moins. La première, c'est que l'islamophobie, c'est quelque chose qui a été monté de toutes pièces. C'est vraiment une entreprise de certains hommes politiques, hommes ou femmes politiques, et de certains médias qui ont construit de toutes pièces une islamophobie qui n'existait pas ou peu, qui était marginale en France. D'accord ? De telle manière, au début, de rejeter certaines pratiques de l'islam que l'on confondait à dessein avec des attitudes islamistes. D'accord ? Et qui, à mon avis, qui a été plus qu'un succès, puisque en fait, elle a, en réalité, elle s'est diffusée dans toutes les strates de la société. Ça, donc, l'islamophobie, c'est pas quelque chose qui est naturel chez les gens. C'est quelque chose qui a été, en tout cas, construit. La deuxième chose, c'est que pour être sur le terrain et pour bien l'avoir observé durant toutes ces années, la société française n'est pas une société raciste, contrairement à ce que, ce que les différentes manifestations laissent penser. En réalité, c'est quelque chose de très marginal. Et même si aujourd'hui, on s'inquiète à juste titre de la montée de l'intolérance, des manifestations de plus en plus visibles des groupes d'extrême droite, notamment à travers les groupes, l'expression paramilitaire de certains groupes d'extrême droite, mais également à travers la banalisation des lois d'exclusion et, en dernier lieu, l'élection record du nombre de députés à l'Assemblée nationale, il n'en demeure pas le moins que tout ça reste un phénomène marginal, mais qui ne connaît ce relatif succès que parce que la frange humaniste et silencieuse de la société, et justement, je dis silencieuse à dessein, parce justement ne se manifeste pas assez, ne s'engage pas assez. Parce qu'on a une société aujourd'hui qui déserte l'espace politique, qui n'en a plus confiance et qui cherche des
des expressions alternatives à la vie politique et aux réponses politiques. Il y a un désintérêt face à la chose publique, envers la chose publique. Il y a un désintérêt dans l'engagement. Et je pense que c'est ce qui permet aux partis les plus intéressants, aux franges les plus intolérantes, de saisir l'occasion, d'occuper cet espace et donc d'imposer une lecture rétrograde de la société aujourd'hui un peu partout dans les espaces médiatiques et les espaces politiques. Voilà, ça, c'est les deux points, je pense, qui sont les plus saillants dans la société et qui marque beaucoup aujourd'hui notre espace social et politique.
Et selon toi, d'où ça vient ça, tu dis que ouais, ça reste une frange de la société. Et pourquoi cette frange se focalise autant sur les musulmans ?
Mais elle se focalise autant sur les musulmans parce que en fait, l'islamophobie, c'est un investissement qui rapporte plus que le racisme. Quand je dis le racisme, c'est par exemple la négrophobie, l'arabophobie ou encore l'antisémitisme ou encore le sexisme ou encore l'homophobie. L'islamophobie, c'est l'investissement le moins risqué parce qu'en face, l'islamophobie, c'est un phénomène qui vient de l'extrême droite, mais qui se nourrit des préjugés que la société a sur les Arabes, les étrangers, les immigrés, les musulmans. Voilà, la société, elle a des préjugés sur toutes ces populations qui, regroupées, forment la communauté musulmane. Et en réponse, cette communauté, d'abord, parce qu'elle est la première concernée, n'apporte pas ni le discours, ni la réponse appropriée en termes d'investissement politique, en termes d'investissement, en termes d'engagement militant. Voilà. C'est une réponse qui est non pas inappropriée, mais insuffisante. Et notamment, il y a une absence sur le plan économique, il y a une absence d'engagement politique, parce qu'il y a un manque de culture qui sont liés à ces deux domaines de la société. Je m'explique. Quand je dis qu'il y a une absence sur le plan économique, on n'a pas la communauté musulmane commence à s'engager elle devient une communauté d'entrepreneurs, c'est une communauté de commerçantes, elle devient de plus en plus communauté d'entrepreneurs, mais ça reste quand même à une échelle beaucoup trop modeste. Et aujourd'hui, on est plus des boutiquiers que de véritables entrepreneurs. Or, il faut aujourd'hui qu'on participe au développement de la société en investissant de grands projets économiques à l'échelle du pays, certes, mais pas seulement, aussi à l'échelle européenne. De la même manière, on doit devenir également une communauté de propriétaires et donc développer des alternatives, par exemple, à tout ce qui est proposé en termes d'acquisition d'immobilier. Ça, c'est sur le plan économique. Mais surtout, et c'est là où le bât blesse, c'est que même si on n'arrive pas à faire ça, nous nourrissons ceux qui nous discriminent sur le plan économique. C'est-à-dire que, par exemple, cela ne va pas nous déranger d'aller consommer des produits chez des entreprises qui refusent, qui vendent des produits notamment halal ou pas, peu importe, mais qui en même temps va refuser à travers des politiques de discrimination assumées de ne pas recruter des musulmans parce qu'ils sont pratiquants ou bien des femmes parce qu'elles portent le voile. Et donc, en fait, ça, je veux dire, ça n'impose pas le respect vis-à-vis de nos convictions, puisque notre propre bourreau le nourrit. Et ça, ça ne va pas du tout. Il faut changer cette manière de voir les choses et il ne faut pas que celui qui nous discrimine profite de notre argent. On ne peut pas engraisser notre bourreau. Ça, c'est le premier point. Donc, tu comprends que si on change notre schéma et qu'on doit cesser, en gros, de dépenser notre argent chez ceux-là même qui nous discriminent, eh bien, cela va nous imposer à réfléchir à des alternatives. et de comprendre que comme tout seul, on ne peut pas amener l'alternative, il faut qu'on l'amène de manière organisée et structurée. Et ça, ça doit nous pousser à penser notre présence dans cette société, notre présence en tant qu'acteur fort qui peut déjà se sortir de la situation de marasme social, économique et politique dans laquelle il est, pour ensuite également permettre, à travers la croissance qu'il va proposer par ses programmes économiques, également faire profiter l'économie nationale ou même l'économie européenne. Voilà, c'est toute une vision qu'il faut changer chez nous sur le plan économique, de la même manière qu'il faut changer aussi notre vision politique. Nous avons grandi dans des quartiers où souvent c'était des politiques de gauche ou des partis de gauche qui étaient dominants et qui nous ont malheureusement plus appris l'assistanat que l'entrepreneuriat. Alors, ça ne veut pas dire que j'appelle à voter pour des partis de droite, pas du tout, mais comprendre que ça nous a gardé, ça nous a conforté dans une vision d'assistanat au lieu d'être dans une vision de libération vis-à-vis de l'assistanat. Et on sait très bien que nous, normalement, notre éthique, elle suit notamment un hadith du prophète alayhi salatu wasalam, qui dit « La main qui donne est mieux que la main qui reçoit ». Donc, nous devons non pas profiter normalement des avantages sociaux qui existent, non pas parce que ce n'est pas un droit, c'est un droit. Si on y a le droit, on doit demander nos droits, mais on doit surtout participer à renforcer le caractère social de nos institutions. Donc, plus renforcer les institutions sociales plutôt que d'en tirer un bénéfice. Et on le fait déjà à travers le travail que l'on mène, même en tant que salarié, on participe à cet effort national, mais il faut également essayer d'être toujours davantage la main qui donne que la main qui reçoit. Et ça fait de nous une communauté plus respectée et une communauté dont on écoutera les paroles plus qu'une communauté qui subit les paroles des autres.
Ouais.
Donc, tu vois qu'il y a toute une culture à bouleverser qui change. Hein, attention, les choses changent positivement. Je ne suis pas en train de dire que… Mais c'est vrai que le retard accumulé ne nous permet pas de voir cette évolution qui est en cours. Et cette évolution également, en plus d'être en cours, elle doit être accélérée. Et ça, c'est le rôle de nos penseurs, de nos responsables, de nos imams et j'en passe, qui doivent vraiment accélérer tout ce processus en développant ce discours. On doit cesser d'avoir un discours attentiste, d'avoir un discours passéiste. Tous ces types de discours, on va nous dire « Est-ce que tu crois que c'est ton diplôme qui va t'emmener au paradis ? Est-ce que tu crois que c'est le fait d'être riche que ça va t'emmener au paradis ?» Eh bien oui, oui, nos diplômes, oui, notre richesse, ça peut nous mener au paradis si on sait l'utiliser. Et c'est à nos penseurs et à nos imams et à nos savants de nous dire justement comment le faire.
Oui. Si un jeune t'écoute ou un… personne qui travaille, quoi que ce soit, hein, écoute le podcast, là, qui a envie de faire des choses, qui aimerait pouvoir faire des choses, mais qui ne voit rien autour de lui, qui ne voit rien de vraiment…
De pertinent
autour de lui. Vers quoi tu l'orienterais?
Mais il faut le créer. Je vais te dire, tout à l'heure, on parlait du CCIF. Il faut, avant qu'on crée le CCIF, il faut savoir qu'il y avait d'autres initiatives dont je ne tairai le nom pour ne pas… froisser certaines oreilles. Et c'était des initiatives qui, quand on les comparaissait à celles du CCIF, elles étaient beaucoup plus ambitieuses, puisqu'elles rassemblaient un large pan de toutes les organisations qu'on pouvait imaginer à l'époque. Mais parce qu'on connaissait le terrain, on savait qu'elles n'aboutiraient pas. Et on a cru dans notre projet, même si on avait très peu de moyens à l'époque, parce que notre projet répondait à un réel besoin et parce que notre projet… il correspondait à une réelle attente. D'accord ? Oui. Aussi, à cette époque-là, au moment où on lance le CCIF, il n'est pas encore lancé, tous les gens parlaient, rappelez-vous, 2003, on avait un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Sarkozy et qui voulait lancer le fameux CFCM. Et tout le monde critique le CFCM, tout le monde critiquait le CFCM. Oui,
encore une coquille vide, on va nous imposer nos dirigeants et ainsi de suite. Mais très bien, mais au-delà de la critique, au-delà du manque au monde, au-delà du manque de projets pertinents dans lesquels tu souhaiterais toi t'engager, pourquoi toi tu n'engages pas ton propre projet avec d'autres personnes qui ont les mêmes convictions que toi et qui savent vers où il faut se diriger, ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est aussi ça le CCIF. C'est montrer qu'il ne faut pas attendre que les autres, il ne faut pas attendre qu'une autorité imposée ou une autorité souhaitée puisse venir faire le travail. C'est toi l'autorité, c'est toi le chef de projet, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Tu seras questionné, tu seras jugé sur ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, pas sur ce que les autres ont fait. Chacun sera jugé sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait. Et c'est là. Et de la même manière qu'on l'a fait pour le CCIF, eh ben, tu peux, toi, le faire sur d'autres projets, que ce soit des projets économiques, des projets sociaux, des projets politiques. Il faut le faire. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de dire deux choses. Vous savez, en réalité, très peu de personnes savent que j'ai été pendant 17 ans, pas 17 ans, de 2003 à 2017, j'ai été le président du CCIF parce que je n'étais pas mis en avant, parce que je n'étais pas un personnage qu'on voyait dans les médias, pour la bonne et simple raison que c'était un souhait de ma part. Et c'était aussi une nouvelle culture que je voulais intégrer dans le travail associatif et surtout le travail collectif, c'est que ce travail que l'on dit collectif doit réellement être collectif et que c'est le projet qu'on doit mettre en avant vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis des gens, vis-à-vis des gens dont on souhaitait le soutien et non pas les personnes. Parce que très souvent, malheureusement, les projets sont liés à des individus. Et quand l'individu disparaît, le projet disparaît avec lui. Et ça, c'était un défi, c'est un défi de montrer aux gens qu'on peut faire les choses autrement, qu'on peut développer les projets autrement et que ce qui est important dans le projet, c'est le projet en lui-même. Ce ne sont pas les personnes qui le portent. Et surtout, la qualité du projet, la pertinence du projet, la rigueur dans le projet et la qualité des résultats obtenus. Il faut arrêter de miser sur les personnes. Il faut arrêter de croire au Messie. Il faut arrêter de croire à l'homme ou à la femme providentielle. Il faut faire les choses de manière collective. Oubliez les individus et se concentrer sur le projet. Oubliez les étiquettes et se concentrer sur l'objet du projet. C'est ça qui est important. Et donc, ça me mène, sauf si tu as une question à me poser, mais ça me mène aussi à l'autre engagement que j'ai eu. C'est l'engagement politique. Quand j'ai arrêté en 2017 le CCIF, je l'ai arrêté parce que je me suis engagé en politique, et notamment pour les élections législatives de 2017. La même année qui a vu Emmanuel Macron devenir président. Et je l'ai fait, bien sûr, pas tout seul, c'est un projet collectif, mais pour le coup, comme c'est une élection législative, qui est une élection, comme vous le savez, uninominale, c'est-à-dire qui met en avant une personne avec son suppléant, là, pour le coup, j'ai été obligé de mettre ma petite tête. Forcément, on n'avait pas le choix, puisque quand on vote pour une personne, donc ça serait bien de savoir qui est cette personne. Et j'ai voulu montrer une chose à travers cet engagement. La première, je l'ai fait sans étiquette politique, ni gauche ni droite, parce que j'ai voulu montrer à tous ceux qui se sont engagés avant moi et tous ceux qui pourraient le faire après moi qu'il n'est pas obligatoire d'être adoubé par un parti politique pour s'engager en politique. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas besoin et on peut obtenir un succès. Il faut se libérer de tous ces carcans qu'on nous impose depuis qu'on est petit, où on nous dit, tu sais, sans ça, tu ne peux pas faire ça. Sans ça, tu ne peux pas faire ça. Moi, je vais dire que quand on a la volonté, le projet et les moyens, et il faut se les donner, ces moyens et ces projets, cette volonté, on peut atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc, je me suis engagé sans étiquette. Je me suis engagé avec un financement totalement autonome et surtout, je me suis engagé avec un projet qui était celui d'un projet de terrain. Résultat des courses, nous étions 14 candidats et on ne donnait pas cher de ma peau. Pourquoi on ne donnait pas cher de ma peau? Et là aussi, c'est un élément qui est important. Parce que j'étais de Bassami, étiqueté communautariste et en plus président du CCIF.
en gros, le candidat le plus handicapé de la campagne, théoriquement. Mais ça, ce sont des chaînes et des carcans qu'on veut vous imposer. T'es trop arabe, t'es trop noir, t'es trop femme, t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es trop quelque chose pour te décourager dans ton projet. Et toi, ce qu'il faut répondre, il faut répondre par la détermination. Et c'est la détermination que ton projet est légitime, que ton projet est juste, que ton projet est sérieux, que ton projet est rigoureux, que ton projet en a les moyens d'être mis en œuvre. C'est cette détermination qui va te permettre de convaincre les gens, de croire en ton projet et de t'aider, de te soutenir. Et moi, il faut savoir que j'avais une équipe durant cette élection qui était beaucoup plus nombreuse que certains candidats qui étaient, pour le coup, qui étaient proposés, présentés par des appareils politiques. Et comme je disais tout à l'heure, sur 14 candidats présentés, eh ben, je suis passé au deuxième tour. Ça a été une véritable surprise. Alors, bien sûr, je n'ai pas gagné, sinon ça se saurait. Je n'ai pas gagné, mais cette défaite avait clairement le goût de la victoire, puisque derrière, ça a encouragé mais beaucoup de monde dans toute la France, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit ben, « nous aussi, on veut faire la même chose ». Et c'était l'objectif, c'était de briser des chaînes dans les esprits des gens et de dire aux partis « on n'a pas besoin de vous ». Quand une personne veut s'engager, elle le fait. Et puis, c'est dans l'air du temps aujourd'hui. Aujourd'hui, 5 ans après, ça paraît une évidence que je dis que les partis ont de moins en moins de prise sur les opinions publiques, mais ce n'était pas une chose évidente au moment où je me suis engagé et j'ai montré que c'est possible. Et c'est ça, il faut se libérer de tous ces carcans. Et aujourd'hui, Samy Debat, présenté, ancien président du CCIF, on l'a, tu sais, cette élection, elle a donné lieu à une autre candidature, celle de 2020 pour les élections municipales, où je suis largement, où nous avons été largement qualifiés pour le deuxième tour, et nous avons malheureusement perdu au deuxième tour de 127 voix dans des conditions très contestables de mon point de vue. Et voilà, et nous avons failli gagner la ville. Nous avons. Alors, ce qui est extraordinaire, ce qu'il faut dire aux gens, nous sommes une ville comme qui a un profil électoral qui est assez semblable aux villes du même type sur le plan sociologique, des villes populaires, où on vote beaucoup moins que la moyenne nationale. Et ben, lors de cette élection municipale, dans un contexte Covid, rappelez-vous 2020.
Ouais.
Dans un contexte Covid, c'est la première fois dans l'histoire de cette ville où la moyenne, où le nombre de votants dépasse la moyenne nationale. C'est quand même assez extraordinaire. Cela veut dire qu'il faut arrêter de dire que les gens des quartiers ne vont pas voter quand, quand le message ne leur convient pas, quand ils ne sont pas convaincus, et bien ils ont une attitude qui est complètement rationnelle. Voilà, c'est le mot.
Ouais.
Ils ont une attitude rationnelle qui est celle des électeurs. Moi, quand tu ne me convaincs pas, je ne me déplace pas. Et bien, quand ils se sont reconnus derrière un candidat, quand ils se sont reconnus derrière un programme qui répondait à leurs attentes, puisqu'il a été construit de la base en allant à leur rencontre, et bien, les gens se déplacent. Les gens se déplacent. Il y a des gens qui n'ont jamais voté, qui se sont déplacés pour voter. Voilà, à travers tous ces exemples-là, ce que je veux montrer, parce que les gens en ont marre des discours, ils veulent des exemples, et bien, on a essayé, à travers l'exemple du CCIF, à travers l'exemple de l'élection, j'ai voulu montrer que contrairement, ce ne sont pas que des discours et que réellement, ce que je défends, ce que d'autres défendent aussi à mes côtés, c'est une réalité et que c'est possible. Ce n'est pas un discours creux, un discours, ce ne sont pas de vains espoirs. Et ça, il faut le faire, il faut le multiplier. Et quand on multipliera ces initiatives, on améliorera notre condition économique, donc notre condition sociale, donc notre condition politique, donc notre place dans la société. Voilà.
Très bien. Je n'ai pas voulu t'interrompre. Hein. J'avais plein de questions qui ont popé dans ma tête au fur et à mesure, mais je me suis dit, je vais le laisser terminer. C'était tellement intéressant. Donc, j'essaie de le reprendre, hein, pas dans l'ordre, mais c'est quoi ta vision? Est-ce que tu as, toi, une vision pour l'islam et les musulmans en France dans 10 ans, par exemple?
Alors, moi, j'imagine pas en termes de temporalité. J'imagine en termes d'action, de situation, de changement. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a un verset qui est très clair. Dieu ne change pas la situation d'un peuple tant qu'il ne se change pas lui-même. Il n'a pas dit il ne change pas la situation d'un peuple jusqu'à qu'on arrive à telle génération, jusqu'à après tant d'années. Non, tant qu'il ne se change pas lui-même. C'est-à-dire que le changement, il doit venir de nous-mêmes et de manière non seulement individuelle, mais également collective. Parce que notre salut viendra du travail collectif, pas autrement. On ne peut pas, l'interdépendance entre les humains, c'est une règle presque, je n'ai pas envie de dire presque divine, c'est une règle à la fois divine et sociologique. Regarde bien le verset, comment il est proposé, il est présenté. Il dit « Dieu ne change pas la situation d'un peuple ». Il n'a pas dit « Dieu ne change pas la situation des croyants ». Dieu ne change pas la situation des musulmans. Dieu ne change pas la situation des pieux. Il dit la situation d'un peuple, quel que soit ce peuple, croyant ou pas croyant. S'il se change lui-même, alors sa situation se changera. C'est une règle sociologique. Tu vois ? Et de ce point de vue-là, nous, c'est ça qu'il nous faut. Il faut changer notre situation de nous-mêmes. Il faut qu'on change notre logiciel, qu'on arrête de rentrer. Il faut qu'on cesse les délires de trucs… De projets, on va dire, pas personnels, c'est bien sûr pas des projets personnels, mais de projets égoïstes. C'est-à-dire, moi, tant que je m'en sors, moi, le reste, je m'en fiche. Les projets égoïstes, non seulement ils ne mènent pas bien loin les individus, mais surtout collectivement, ils nous sabotent. D'accord ? Donc, pour revenir à ta question et te dire, je te promets, dans 10 ans, une situation totalement, radicalement opposée à celle d'aujourd'hui et complète, une situation où on verrait les musulmans complètement épanouis dans la société, dans notre société, sans islamophobie, à la seule condition qu'ils décident dès aujourd'hui de se prendre en main, d'arrêter d'attendre qu'on s'occupe d'eux, d'arrêter d'attendre que l'homme ou la femme providentielle arrive, mais qu'ils décident collectivement de créer des espaces de projets collectifs. Voilà. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, et n'oublions pas, la situation de ce peuple, dès lors qu'elle va se changer d'elle-même et qu'elle va lever les mains, alors le secours viendra, mais pas avant, pas avant. Au contraire même, si on ne décide pas de se prendre en main pour changer notre situation, non seulement le soutien ne viendra pas, pire, la situation pourra s'aggraver jusqu'à que on parte et qu'un autre, une autre génération arrive et qu'elle décide de se prendre en main et qu'elle profitera de tous les bénéfices liés au changement de sa situation. Voilà.
Je te pose la question parce que quand on demande à chaque musulman, chacun va avoir une réponse différente. Je ne sais pas si ta réponse elle est complète, mais de ce que je comprends, c'est que ce que tu me dis, c'est que l'état idéal des musulmans, c'est une société française où il n'y a pas d'islamophobie.
Je ne sais pas où il n'y a pas d'islamophobie, parce qu'à mon avis, il y aura toujours de l'islamophobie, mais en tout cas, où l'islamophobie sera de nature marginale, on va dire. Parce que l'islamophobie, c'est lié au racisme. Et le racisme, il y a toujours un racisme qui existe dans toutes les sociétés, de toute façon, pas que la société française, mais qui reste quand même le plus marginal possible, ou en tout cas, ces expressions politiques et médiatiques restent plus que marginales. Elles restent dans des cercles très intimistes, on va dire. Voilà, mais pas ce que l'on connaît aujourd'hui. En tout cas, qu'ils aient cette situation, les musulmans, et surtout, idéalement pour eux, c'est qu'ils puissent vivre leur liberté religieuse de manière totale, sans obstacle, bien sûr, et de manière surtout harmonieuse avec leurs concitoyens. Ah, c'est ça l'idéal pour les musulmans, ils ne demandent rien d'autre. Ils ne demandent pas un traitement exceptionnel, un traitement de faveur, ils demandent de pouvoir vivre leur religion, d'ailleurs, dans les conditions qui sont garanties par les lois fondamentales de notre pays ou de l'Europe.
Oui. Je me demande parfois, je te pose ça, j'essaie de m'exprimer, bien m'exprimer, de pas dire de bêtises, mais tu vois, j'ai l'impression parfois que, tu vois, en termes de vision, c'est une vision justement qui revient souvent, en fait. C'est-à-dire, entre guillemets, qu'on nous laisse tranquille, quoi, les musulmans, qu'on nous traite un peu comme un Français lambda et qu'il n'y ait pas de.
Bien sûr.
Et qu'on soit juste traité comme n'importe quel individu en France. Je trouve, personnellement, Mais tu peux me dire si tu n'es pas d'accord que cette ambition-là, cette idée-là, elle manque d'ambition justement, dans le sens où ça reste quand même au final très passif. Ça ne montrerait pas l'action que les musulmans veulent avoir, la vision que les musulmans veulent apporter en tant que croyants, en tant que communauté dans la société. C'est-à-dire qu'on veut, à la fin, j'ai l'impression que ça veut toujours dire qu'on ne veut pas forcément apporter quelque chose. Je ne sais pas si tu sais bien exprimé, si tu vois ce que je veux dire.
Oui, j'ai très bien compris. Et c'est lié à ce que l'on a dit tout à l'heure. Ce manque d'ambition, il est lié à notre culture sociale. C'est l'assistana. On a grandi comme ça depuis qu'on est ici. Ne faites rien, on s'occupe de tout. Vous êtes en France, la France, c'est l'État-providence. L'État-providence, c'est que l'État soutient les habitants, les Français, les étrangers, dans tous les domaines de la vie, sur le plan social, sur le plan économique. Tu ne travailles pas en tête, tu fais ça en tête, tu fais ça. Mais presque à la limite, tu n'as rien envie de faire, tu n'as pas envie de travailler. Eh bien, reste chez toi. Dans le pire des cas, tu auras un revenu minimum qui s'appelle le RSA. Et les gens qui vivent dans le assistana, eh ben en fait, ils y demeurent parce que c'est un état. Après, ça devient un état d'esprit. D'accord ? Donc, quand tu grandis avec cette mentalité, tu ne peux pas avoir d'ambition.
Oui.
Et cesser de subir, ça suppose que tu te prennes en main. Sauf que c'est en contradiction avec toute l'éducation que tu as eue, te prendre en main. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'a appris quand tu étais gamin. Et c'est donc tout un logiciel qu'il faut changer. Et l'ambition, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se nourrit. Et notamment, cet élément-là, il y est, l'ambition, la réussite, c'est lié à l'image que l'on a de nous-mêmes.
Oui.
Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tu as une bonne image de toi-même, tu comprends que le projet de vie qu'on te propose, eh ben, il n'est pas celui que tu mérites en tant qu'individu, mais également en tant que communauté constituée. Tu comprends que moi, en tant qu'individu, mon projet, non, je ne peux pas être… Quelle est ma valeur en restant un individu assisté ? Quelle est ma valeur en cherchant en conditionnant ma situation sociale à l'aide qu'on veut bien m'apporter et à l'aide d'ailleurs qui se réduit d'année en année. Qu'est-ce que c'est, quelle image j'ai de moi-même d'être un assis? Comment tu veux qu'un papa assisté puisse demain dire à ses enfants, ouais, il faut que tu travailles bien à l'école. À quoi ça sert?
Ouais, ouais.
Comment tu peux toi-même améliorer, donner un avenir, donner une vision et une éducation à tes enfants si toi-même, ton cerveau, il est bloqué dans l'assistana et si toi-même, tu n'as pas une bonne image de toi-même? Comment tu peux transmettre une bonne image à ton fils, lui dire qu'il a de la valeur si toi-même, tu n'en as pas à tes yeux? Et de manière collective, comment tu peux accepter qu'en tant que croyant, toi qui as la conviction que tu es la meilleure communauté suscitée pour les hommes, d'être la risée de tous les hommes, d'être traité de cette manière par tous les hommes. Quelle dignité tu as ?
Ouais.
Et si ça, on ne se pose pas cette question de manière individuelle et collective, et qu'on ne décide pas de manière individuelle et collective de cesser ce regard sur nous-mêmes et de nous dire on ne mérite pas ce traitement, tant sur le plan individuel, ma famille ne mérite pas, mes enfants ne méritent pas ce traitement, et de manière collective, on ne le mérite pas, alors ce jour-là, on se mettra autour d'une table et de manière désintéressée, on réfléchira à notre avis, à notre avenir. Et moi, je peux vous l'assurer que si on le fait ça, mais ce n'est pas 10 ans, il n'y a pas dans 10 ans, dans même pas 5 ans, vous allez voir notre situation complètement se bouleverser. Je vais vous dire une chose comme ça, vous allez comprendre que ce n'est pas un vœu pieux que ce que je dis. Vous savez, quand je me suis présenté aux élections, j'ai défendu beaucoup de choses et notamment, ça a permis à des électeurs qui ne se mobilisaient jamais, eh bien, d'exister, de se manifester dans les urnes et d'exister. Et vous savez, mon élection, elle a intéressé plus d'un. Et ce que l'on a vu, c'est que des populations
que l'on marginalisait, que l'on ne considérait pas, eh ben, après cette élection, eh ben, ils ont été plus qu'honorés. Et des choses qui étaient très, très compliquées à obtenir pour elles, eh ben, tout d'un coup, il y a pas une magie de je ne sais où, eh ben, tout d'un coup, ils ont pu obtenir, non pas ce qu'ils attendaient, mais davantage.
Ouais.
Ben, ce qui est faisable à l'échelle locale, elle l'est à l'échelle, à n'importe quelle autre échelle. Voilà.
Ouais.
Sauf que il faut comprendre qu'il y a une condition sine qua non, c'est-à-dire, si on ne l'applique pas, on ne peut pas l'atteindre. Il faut que les gens qui décident de le faire mettent leur personne de côté. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le CCIF et le président qui ne doit pas apparaître. Il faut qu'ils mettent leurs égos de côté. Il faut qu'ils mettent leur personne de côté et il faut qu'ils mettent les projets en avant et qu'ils gardent à l'esprit que l'objet de leur rassemblement est d'atteindre les objectifs qui se sont posés. Je vous assure que le succès sera au bout.
Oui. D'accord, très bien. Bah, écoute, je te suis tout à fait sûr ce que tu viens de dire. D'ailleurs, il y a la phrase que tu as répétée plusieurs fois qui trotte dans ma tête. C'est sur l'assistana. Je suis tellement d'accord avec ça, en fait. Il y a un assistana, pas seulement chez les musulmans, hein, c'est dans toute la société française.
Bien
avec
sûr.
Tous ces concepts voilà, de CDI, si on n'a pas le CDI, c'est la crise. Des choses qui n'existaient pas il n'y a même pas 100 ans, il n'y avait pas de concept de CDI ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, on est dans une société où, notamment en France, pas forcément dans les autres pays, où toutes ces sécurités sociales, tout ça, ça devient quasiment indispensable et on ne s'imagine même pas vivre sans. Et quand tu l'as répété, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça doit avoir un gros impact sur le mental en fait, des personnes et aussi sur le sens des responsabilités. En fait. Quand on place en fait, toute cette confiance dans l'État, dans la société, on ne prend plus nos responsabilités. On ne se dit pas que c'est nous qui devons faire, qui devons agir, qui devons créer les choses, créer les initiatives, être au départ de projets.
Et de toute façon, dans toute relation interpersonnelle et a fortiori quand on est dans un cadre étatique, de toutes nos relations, dans un cadre institutionnel, dans les relations qu'on a avec les gens, c'est celui qui a l'argent qui décide. C'est comme ça la vie, c'est triste. Ça ne veut pas dire que c'est bien, je suis là à le déplorer, mais c'est celui qui a l'argent qui aura le dernier mot. Si nous, on est soumis à attendre que l'État nous aide, ben c'est l'État qui va décider de notre sort. Aujourd'hui, on est là à nous dire l'État, elle est sous l'influence des gros chefs d'entreprise du CAC 40, parce que c'est le CAC 40 qui donne l'argent. C'est comme ça la vie. Si l'État a besoin d'un média, si, en plus que l'État, il faut dire les gouvernements, ont besoin des médias, si qui sont tenus par des hommes d'affaires, si les gouvernements ont besoin de chefs d'entreprise parce que sans eux ils peuvent pas mettre en œuvre des mesures sociales, et ben c'est le chef d'entreprise qui va donner ses conditions. C'est comme ça la vie. Pourquoi on s'étonne que ça soit différent avec nous? Sinon on est là à quémander l'aide de l'État ou de qui que ce soit, faut pas s'étonner que en face la contrepartie c'est tu fais comme je veux. Nous, on est là à attendre que l'État nous donne l'autorisation de travailler, nous donne l'autorisation d'organiser l'Aïd, nous donne l'organisation, nous donne. On est là à demander à ce que nos mosquées soient issues d'une décision municipale d'accorder un terrain pour 1 € symbolique dans le cadre d'un bail emphytéotique. Oh, c'est merveilleux. Oui, c'est un droit. Et je ne dis pas qu'il faut le négliger ou le nier ou ne pas en profiter de ce droit. Mais réfléchissez aux conséquences. Un bail emphytéotique, c'est qu'au bout de 99 ans, demain, tu as une autre municipalité qui n'est pas d'accord pour avoir une mosquée dans sa ville. Il dit merci d'avoir valorisé mon terrain, mais maintenant, je le reprends parce que j'en ai besoin pour un projet d'intérêt collectif. C'est ça qu'on va laisser, nous, à nos enfants?
C'est un manque de vision.
Hein. Oui, c'est un manque de vision. C'est parce qu'on est au jour le jour. Mais ça, après, ça, c'est… C'est une longue théorie que j'ai, moi, qui va chercher dans l'anthropologie de nos origines, berbéro-arabe pour les Africains du Nord ou tribales, qui fait que nos conditions de vie ancestrales étaient telles qu'en fait, notre ADN est toujours à la recherche de la réponse au jour le jour, parce que c'était notre mode de vie, enfin le mode de vie de nos ancêtres, la recherche de la solution au jour le jour et avec le minimum. Tu vois, le fameux alhamdoulillah, on se contente du peu que nos parents nous enseignaient. Et en fait, ce alhamdoulillah-là, en plus…
Mal interprété.
Hein ?
Mal utilisé, mal interprété.
Et oui, il est interprété, en fait, dans le manque d'ambition. En fait, il nous empêche d'avoir de l'ambition, ce alhamdoulillah. Mmh. Alors que c'est tout le contraire de l'esprit musulman. L'esprit musulman, c'est l'ambition. Sans l'ambition, il n'y aurait pas eu toutes ces inventions, toutes ces découvertes, il n'y aurait rien eu de ce que le monde a aujourd'hui grâce à ce monde musulman qui était ambitieux.
Ouais.
Voilà, on est complètement à l'opposé de la mentalité, de l'éthique, de la vision musulmane. On est complètement à l'opposé. C'est incroyable comment on est des anti-islam, en fait, dans notre manière de faire. Mmh. Voilà, et c'est triste. Et simplement, je voudrais revenir, tu sais, sur la sécurité sociale dont tu parlais. Attention, dans mon propos, je ne dis pas que, par exemple, que la solidarité nationale n'est pas nécessaire. Moi, je suis pour qu'il y ait une redistribution des richesses et tout. D'ailleurs, ça correspond aussi à l'état d'esprit musulman, la redistribution des richesses. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit les musulmans plus dans le renforcement de ces dispositifs de solidarité nationale plutôt que de l'autre côté de la barrière, puisqu'ils seront davantage écoutés s'ils participent, s'ils le renforcent. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais à une échelle beaucoup plus importante.
Très bien. Très bien. Écoute, Samy, on a beaucoup parlé. Je vais essayer de faire vite pour terminer les dernières questions, parce que je t'ai promis que ça n'allait pas durer plus longtemps qu'une heure. Mais c'est tellement intéressant qu'on a, je crois, déjà dépassé l'heure. Je vais te poser la question par rapport à la politique. Alors, la politique, c'est un axe d'action pour les musulmans, pour n'importe quelle population d'ailleurs, pas que chez les musulmans, que tu as choisi auquel tu as choisi de participer. En revanche, la politique, moi, ça me fait peur. Enfin, je trouve que c'est bien ce que tu fais, je ne critique pas. Je partage juste un petit peu les questionnements que j'ai par rapport aux problèmes sous-jacents que tu peux rencontrer et auxquels moi, personnellement, je n'ai pas de réponse. Le fait de se retrouver dans une situation où tu dois prendre des décisions, où tu dois participer à des choses qui sont contraires à ton éthique musulmane. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as déjà réfléchi? Comment est-ce que toi, tu vois les choses?
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Je comprends cette crainte, et cette crainte est légitime. Mais la force de la civilisation musulmane, c'est d'innover face aux obstacles. Je m'explique. Est-ce que vous imaginez si les premiers musulmans disaient: on ne peut pas s'éloigner de la Mecque, trop de la Mecque, de crainte de plus nous retrouver dans la qibla, de ne plus retrouver la qibla, sans quoi notre prière ne pourrait pas être acceptée. Il faut absolument… ce que je veux dire par là, c'est que tu as compris que les musulmans, ils ont développé l'astronomie, ils ont développé toutes ces choses-là, et notamment, entre autres, pour également être sûr de la direction de la qibla. Donc, ils ont innové pour pouvoir continuer à pratiquer leur religion, et cette innovation-là, elle a permis de servir également l'humanité. Et moi, c'est dans le même état d'esprit. On est toujours là, nous, à critiquer les hommes politiques, ils n'ont pas de déontologie, ils n'ont pas de morale. Eh bien, c'est à nous d'entrer dans ces espaces, mais pas que dans tous les espaces, pour apporter justement cette éthique dont on se plaint, pour montrer aux musulmans, mais également à l'humanité, presque, j'ai envie de dire, urbi et orbi, que c'est possible de faire la politique autrement, c'est possible de faire la politique de manière éthique, c'est possible de faire de la politique sans asphyxier les humains, sans écraser les autres populations pour pouvoir être une nation forte. Voilà, c'est à nous de le montrer. Qui va le faire si ce n'est pas nous? Ouais. Si ce n'est pas la khayrun ummatin ukhrijat, la meilleure communauté suscitée pour les hommes, qui va le faire? Également, l'ambition, c'est de passer outre les barrières. C'est aussi ça, c'est aussi ça le trait de caractère du musulman, c'est essayer de passer les barrières. Mais tu sais, je vais te dire, il y a un ordre à respecter pour pouvoir atteindre tout ça. Le premier ordre, c'est se poser la question de qui je suis en tant que musulman, qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma famille, pour le pays, pour le monde, pour les humains, qu'est-ce que je veux, d'accord ? Et à partir de ce que je veux, est-ce que pour moi, pour ma famille, pour le pays, pour tous les humains, est-ce que vraiment on a ce que l'on mérite? Très bien. Dès lors qu'on prend conscience de ça, on doit se dire, il faut qu'absolument que, de manière individuelle, dans ma famille, dans ma ville, dans mon quartier, ma ville, et ainsi de suite, à toutes les échelles, je dois m'organiser de telle manière qu'il faut que je change les choses. Pourquoi moi, je dois les changer? Pourquoi c'est moi qui dois les changer? Parce que mes convictions et mon éthique m'ont appris quoi? Ma religion, ma foi m'a appris quoi? Elle m'a appris le verset suivant. Kuntum khayrun ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Et ce verset là, il est d'une puissance extraordinaire. Vous êtes la meilleure communauté suscitée par les hommes. Vous ordonnez le blâmable.
Ta'muruna, vous ordonnez ce qui est bien et
vous repoussez le blâmable. D'accord? Et à la fin, le verset, qu'est-ce qu'il dit? Wa tu'minuna billah. Et vous croyez en Dieu. Alors que dans les autres versets, normalement, qu'est-ce que Dieu il dit? Il dit, vous croyez en Dieu et vous faites le bien. Là, il dit non, vous ordonnez le bien, vous repoussez le blâmable et vous croyez en Dieu. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes la meilleure communauté? Parce que vous ordonnez le bien, parce que vous reprenez le blâmable et comme si que, entre guillemets, en deuxième position, vous êtes croyant. C'est-à-dire que ordonner le bien et repousser le blâmable, c'est la mission essentielle des musulmans. Et quand on voit la situation dans laquelle nous vivons en tant que musulmans, mais également en tant qu'humains sur cette planète, nous devrions être les premiers à nous engager pour le bien-être des humains, pour le bien-être des animaux, pour le bien-être du climat, pour le bien-être de ceci, pour le bien-être de cela. Nous devrions être les premiers penseurs pour réformer le monde. Nous devrions être à la tête de tous les consortiums, de toutes les ONG internationales, parce que c'est notre conviction. Et nous, on est où? Et nous, on est où? On est dans transfert, elle transfère l'info. Et encore, quand on veut la transférer ou quand on peut la transférer, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner. Il faut qu'on adopte une attitude de leadership pour être à la hauteur de ce que l'on mérite.
Ah bah, très bien. C'est une parfaite transition parce que ma dernière grosse question que je voulais te poser, c'est pour toi, c'est quoi le leadership?
Le leadership, c'est se prendre en main de manière individuelle et de manière collective et à partir de notre éthique, à partir de notre culture et à partir de notre éducation, au sens large du terme, parce que l'éthique, la morale, l'éducation, elle n'est pas que religieuse, elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus vaste. C'est le fruit de notre éducation familiale, mais c'est également le fruit de notre éducation à l'école, tout ça. D'accord ? Donc, notre rôle, c'est qu'à partir de cette éthique, cette morale, cette éducation, nous montrions le chemin qu'il faut adopter pour à la fois notre salut, c'est-à-dire notre réussite, et le salut de tous les humains. C'est ça notre travail. C'est ça, Khalifatun fil ard. C'est ça notre travail. Il n'y a pas d'autre travail. Tout le reste, si on ne fait pas ça, on restera ce que l'on souhaite faire de nous, des producteurs, consommateurs, inconscients.
Super, Malaklofik Sami, pour ton partage. Je te suis à 100% sur ce que tu viens de dire. Donc, on a terminé avec l'essentiel des questions. Sami, je vais terminer juste par quelques petites questions que je pose tout le temps à la fin des interviews. Est-ce que tu as des routines quotidiennes, hebdomadaires, qui reviennent régulièrement, qui t'aident à progresser, à garder ton énergie, à trouver la motivation?
Il faut... Alors, la motivation, on ne peut pas l'avoir 24 heures sur 24, c'est évident. Voilà, y a des moments où on a besoin de rien faire dans sa journée. C'est important. Hein,
ouais.
Mais moi, j'ai une routine. Je ne sais pas si c'est une qualité. Moi, je considère que c'est un défaut que j'ai.
mais malheureusement que j'apprécie particulièrement, je dors bien. Il faut que je dorme beaucoup. Pour moi, la base, bien dormir, c'est la base. Parce que bien dormir, c'est avoir l'esprit et le corps reposés. Et donc, quand il se réveille, quand le corps est en forme, évidemment, pas que dormir, mais dormir, faire de l'exercice, ça permet d'être en forme et donc de bien réfléchir et d'être productif. Voilà. Moi, ça, c'est une base. Il faut manger sain, faut lire, faut s'informer, faut pas perdre son temps. Alors, il faut des loisirs, évidemment. Mais je veux dire, faut être quelqu'un de normal, quoi. Mais il ne faut pas perdre son temps dans des futilités. C'est-à-dire, quand je dis qu'il ne faut pas perdre son temps dans des futilités, il ne faut pas que la part des futilités soit beaucoup plus importante que la part de l'utilité. Ça, c'est fondamental. Il faut diversifier ce qu'on fait, mais il faut surtout faire en sorte que dans la diversification, ce soit des choses utiles pour nous. Et aussi, il faut être passionné par sa vie. Il faut être passionné par le monde. Il faut être passionné par ce que l'on fait autour de nous. Et quand on est passionné, ben on s'intéresse. Quand on s'intéresse, on lit, on s'instruit, on s'informe, on échange et on réfléchit. On réfléchit seul, on réfléchit dans les échanges qu'on a avec les gens et on s'enrichit de l'instruction, de la lecture, des échanges qu'on a avec les gens. Voilà. Il faut considérer que tout ce qu'on a autour de nous est une opportunité. Et l'imam Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait « J'ai deux amis ». Je pense que c'est Hassan al-Basri, si je ne dis pas de bêtises, vous m'excusez si je me trompe sur le personnage. Il dit, j'ai deux amis, j'ai un pervers et un pieux. Le pieux est mon exemple pour savoir ce que je dois faire et le pervers, je regarde pour savoir ce que je ne dois pas faire. Et nous, de la même manière, il ne faut pas se dire qu'on doit fréquenter que des gens bien. Bien sûr, il faut fréquenter que des gens. La plupart de nos fréquentations, c'est des gens bien. Mais il faut aussi lire les gens qui ne sont pas bien pour comprendre ce qu'il ne faut pas faire et les idées qu'il faut combattre. Et c'est important de savoir ce que les gens qui sont hostiles à l'humanité disent pour pouvoir combattre leurs arguments. Et il faut savoir ce que les gens, les humanistes disent, qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs, pour pouvoir s'inspirer de leurs idées. Et derrière, se dire qu'est-ce que nous, on peut développer davantage dans l'intérêt collectif. Et ça relève du patrimoine de l'humanité. Voilà. Il faut apporter sa pierre à l'édifice et il ne faut rien négliger du bien. Et il faut faire le bien autour de soi. Il faut en être convaincu dès lors qu'il correspond à notre éthique. Ce n'est pas aux gens de dire quel est le bien, c'est à nous de nous inspirer de notre éthique, de notre morale, de notre culture, de notre civilisation pour comprendre quel est ce bien et être des imams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Oh Dieu, guide-moi et fais de moi un imam. Fais de moi un imam pour les pieux, pas un imam de la mosquée, c'est-à-dire un guide. Et pas un guide pour les gens, un guide pour les pieux. » C'est dire l'ambition qu'avait le prophète pour les croyants. Et quand il disait « Quand vous demandez, ne demandez pas le paradis, demandez El Firdaus, le plus haut des paradis. » Tout ça, c'est ça notre religion, c'est ça notre mentalité, c'est ce que nous a enseigné le prophète. L'ambition, être la main qui donne, la main qui ne… Qui ne reçoit pas, demander le plus haut des paradis, être l'imam des plus pieux, c'est ça, il nous a appris l'ambition. J'apprends la science, même si aller au bout du monde, c'est ça, le prophète nous a appris l'ambition. Et nous, notre mode de vie, c'est pas l'ambition, c'est mon frère, alhamdoulilah, j'ai ça déjà, voilà, faut pas trop chercher. Moi, je suis triste, excuse-moi, je terminerai avec ça, hein, mais je suis triste d'entendre des gens, par exemple, dire j'avais l'opportunité d'être directeur de mon service dans mon entreprise. Ben mais non, c'est trop de travail, ça me casse la tête. Mais parce que quand tu parles… Oui, c'est vrai, c'est trop de travail, ça casse la tête. Mais quand tu penses comme ça, quand tu réfléchis comme ça, tu réfléchis de manière égoïste. Pense qu'en étant à ce poste, tout ce que tu peux apporter autour de toi, dans la réforme, dans la manière de travailler. Pense à combien, qu'est-ce que tu peux apporter à ceux qui seront sous ton autorité. Pense à tout ce bien que toi, tu peux apporter, à moins de considérer que tu n'es pas une personne de bien. Et dans ce cas-là, je comprends que tu n'aies pas accepté ce poste. Voilà, il faut de l'ambition. Il faut de l'ambition. Il ne faut pas chercher à être le salarié, il faut chercher à être le PDG.
Très bien. Est-ce que tu as une recommandation de livres, de documentaires, de podcasts, quelque chose qui t'a particulièrement marqué ou un ou deux livres que tu souhaiterais recommander?
Et il y a des livres que j'ai lus quand j'étais très jeune qui m'ont marqué. Ouais. C'est des livres, beaucoup de livres de penseurs politiques. Je suis désolé, hein, c'est ma formation. Faut lire, alors, si on s'intéresse à la société, il faut lire Aristote, Platon, faut lire, parce qu'en fait, la société, elle a pas beaucoup changé en réalité depuis l'Antiquité. L'homme, il a toujours été celui que l'on connaît, sauf que c'est matériellement qu'il a beaucoup évolué. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Il faut lire Aristote, il faut lire Platon.
Quel livre en particulier ? Un titre en particulier ?
Non, non, il y a différents. Ils sont très intéressants. Il y a, si tu veux un livre, il y a Le Prince de Machiavel, il y a Le Discours, j'ai oublié le titre de Machiavel, qui est très, très important. Faut lire Bourdieu en sociologie. Faut lire. Comment ça s'appelle ? Il faut lire Bourdieu, il faut lire les concepts d'habitus et de champ de chez Bourdieu. Je suis désolé, c'est mes biais. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux qu'il faut lire, il y a que écouter, mais ce sont des livres qui sont très importants. La Boétie, le fameux livre là, dont j'ai oublié le titre, mais qui est très connu, la servitude volontaire. Là.
Ouais, un discours sur la servitude volontaire.
Voilà, il faut lire. Sur les lectures musulmanes, il faut lire La foi du musulman de Cheikh Razali, le Mohamed El-Razali récent. Il faut lire Si on peut, Ihya Ulumuddin de Razali. Il faut lire aussi des contemporains. Il faut écouter les vidéos des savants contemporains. Alors, il y en a beaucoup. Je n'ai pas envie de donner de nom, on risque de froisser certaines susceptibilités. Qui sont des savants qui ont agi, on les a vus, ils ont travaillé à travers le monde, et c'est des gens qui sont très divers. Hein. Moi, j'ai pas de préférence, j'ai pas d'orientation particulière sur le plan religieux. Moi, j'écoute tout le monde et je suis toutes les personnes qui ont un intérêt. Je pense qu'il y a le bien partout et que l'exclusivité du bien, la totalité du bien se trouve qu'entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais que les hommes, ils ont tous en eux une partie de ce bien qu'il faut les écouter, qu'ils soient croyants ou pas d'ailleurs. Il faut lire des auteurs chinois aussi qui sont très connus. Il faut lire un auteur hongrois, dont j'ai oublié le nom, mince, qui parle de la guerre, très important, parce que la guerre, ce n'est pas que la guerre au sens… lui, il parle de la guerre en tant que guerre telle qu'on la connaît, mais ça parle beaucoup des relations et des rapports de force. C'est très important, ça, de comprendre les rapports de force, parce que ça permet
c'est guerre et paix, Tolstoy.
Non, c'est pas Tolstoy. Tolstoy aussi, il est bien. Lui, c'est Clausewitz. Voilà, Clausewitz qui s'appelle. C'est bien, il faut lire Clausewitz. Voilà, plein de penseurs. Faut lire Durkheim aussi en sociologie. Faut lire Anna Arendt aussi, elle est bien.
Nous a fait une bibliothèque.
Elle parle très bien des totalitarismes. En fait, tu vois, il y a plein de choses. L'essentiel, c'est de lire, s'instruire en fonction aussi des sujets de prédilection. Il y a des gens, par exemple, la politique, ça ne les intéresse pas, la pensée politique, ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas grave. Vous pouvez lire dans d'autres domaines, mais l'essentiel, il faut s'alimenter. Il faut. Et c'est ça. Et il faut aussi s'informer au jour le jour. Il faut connaître son environnement. Il faut suivre l'actualité. C'est très important. L'actualité nationale, l'actualité sociale, économique, l'actualité, la géopolitique, c'est-à-dire la relation internationale. Il faut connaître tout ça. C'est important. Voilà.
Ouais.
Voilà. Et après, tu prends un petit moment et tu vas boire un café. Et voilà, ça te permet de faire une petite coupure.
Très bien. C'est quoi du coup toi tes projets pour la suite, vu que tu participes plus, t'es plus actif au CCIF ni au CCIE J'imagine que tu ne comptes pas t'arrêter là.
Non, je vais continuer à conseiller des organisations. Moi, je suis élu sur ma ville, donc je vais continuer ma mission d'élu. Voilà, et puis il y a d'autres projets aussi que j'ai l'intention de mettre en œuvre. Mais désolé, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas parler trop des projets qu'il a en vue, à l'esprit, parce que je préfère d'abord les mettre en œuvre et après en parler plutôt que d'en parler et de risquer de jamais les mettre en œuvre.
Tu as bien raison. Voilà. Dernière question, Samy. Si un auditeur ou une auditrice a une question à te poser, est-ce que c'est possible?
Bien sûr, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Moi, je suis sur les réseaux sociaux ou bien il peut m'envoyer un mail sur ma boîte perso, samydeba@yahoo.fr.
Très bien.
Samydeba@yahoo.fr. @yahoo.fr. Voilà.
Je mettrai ça en description, Inch'Allah. Sami, je te remercie beaucoup. C'était une longue interview, alhamdoulilah, il y avait beaucoup à dire. Et je demande à Dieu qu'il te donne la force, qu'il t'aide à aller au bout de tes idées, Inch'Allah, qu'il t'aide à être parmi les plus utiles aux hommes.
Amin. Amin.
Et aux musulmans. Dieu te récompense. J'espère te rencontrer un de ces quatre quand je passe à Paris, Inch'Allah. Tu es à Paris, hein, c'est ça?
Avec plaisir, oui, bien sûr.
Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Barakallahu fik, qu'Allah te facilite et qu'il mette beaucoup de bénédictions dans ton travail et dans tes projets, Inch'Allah.
Amin, merci beaucoup, Sami.
À ta famille.
Amin, toi aussi. Barakallahu fik. Salam alaikum, Sami.
Salam alaikum.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.